Mais que dire des cadets de grandes familles qui se trouvaient ainsi frustrés, privés de tout héritage et à qui il fallait trouver une occupation. On les orientait en général vers le métier des armes ou vers les abbayes, vers les monastères, vers le clergé régulier et séculier, et on leur trouva une occupation qui parut fort naturelle, fort légitime et fort louable aux gens de cette époque, et qui consistait à entreprendre la libération de la Terre Sainte de l'occupation par l'infidèle. C'est ainsi que de nombreux fils de France, mais sacrés chevaliers, et partirent en Orient afin d'y convertir l'infidèle et en tout cas de libérer les lieux où le Seigneur avait vécu, avait souffert et avait sacrifié sa propre vie pour la réhabilitation des hommes. Or, parmi ces chevaliers, un beau jour de l'année 1118, 9 d'entre eux, sous la présidence d'Hugues de Pin, se réunirent à Jérusalem et décidèrent de tenter autre chose que l'action par les armes, de tenter autre chose que la seule et stricte action militaire, de tenter en somme un rapprochement avec l'infidèle pour essayer de trouver un terrain d'entente plutôt que d'essayer de trouver un terrain de combat. C'est ainsi que se fonda l'embryon de ce qui devenait, de ce qui devait devenir ultérieurement l'ordre des Templiers et de ce qui s'appela à l'origine l'ordre des Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Pourquoi ce nom? Pour une raison fort simple. C'est que nos chevaliers qui avaient ainsi conçu le désir louable de prendre contact avec l'adversaire, de façon à en prendre la mesure, de façon à tenter un rapprochement, s'étaient voués à une mission. Ils avaient décidé que libérer la Terre Sainte était fort bien, mais en permettre la pénétration pacifique par les pèlerins, assurer la sécurité du voyage de ces pèlerins, assurer la construction à travers cette terre reconquise de routes, de ponts, de temples, de chapelles, de modestes demeures, c'était ma foi un travail qui valait la peine que l'on s'y attachât. Et cherchant à prendre contact avec l'infidèle, il se trouve tout naturellement en présence de schismatiques de l'Orient, une tribu extraordinaire qui se réclame de l'islam et qui pourtant se trouve peu ou prou excommuniée par l'islam, qui est composée d'authentiques arabes mais qui néanmoins présente des traits ethniques qui jurent également avec l'ensemble de la race. Il s'agit de la tribu des assassins qui appartient à la grande secte des Ismaéliens. Que savez-vous des Ismaéliens? Vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est une religion qui est une religion islamique, qui se réclame du prophète, qui groupe un nombre colossal d'adhérents, je n'ose pas dire des centaines de millions, mais je crois que le chiffre ne serait pas hasardeux, qui à l'heure actuelle élit son chef religieux tous les ans, et non, qui au contraire le consacre car il est héréditaire, mais qui le gratifie tous les ans de son propre poids d'or et de pierreries. Quelle est l'origine historique de cette secte? Je vais vous le dire en deux mots, et je vais me référer pour cela à un excellent ouvrage, celui de Monsieur Jules Renard, aux éditions Dervy, sur l'Orient et l'Occident. Et il dit en quelques mots que les Ismaéliens pratique la religion d'une doctrine gnostique. Et voici ce qu'il dit. Il considérait Dieu comme inconnaissable, ineffable, incapable de créer, Hors de l'atteinte de l'esprit humain, il avait produit deux principes éternels, la raison universelle et l'âme universelle, qui avaient engendré l'espace, le temps et la matière. L'âme universelle descendait dans le monde de la matière, s'y subdivisait en âmes individuelles, auxquelles la raison universelle communiquait l'intelligence. Ces fragments d'âme et de raison divine se dégageaient de la matière après plusieurs existences. Pour les aider dans leur salut, la raison et l'âme universelle s'incarnaient de temps en temps en un homme, c'est la doctrine messianique, ce qui permettait aux âmes particulières de connaître la raison universelle et finalement se réunir à elle. J'ajouterai, pour être à peu près complet, que cette doctrine ésotérique s'appuie sur la lecture du Coran non point comme texte littéral de la foi, mais comme un ouvrage ésotérique qu'il convient de lire avec les yeux de l'esprit en sachant en interpréter les termes. Voilà donc les chevaliers de l'ordre du Temple qui se rapprochent de cette tribu d'Ismaéliens, les assassins, et qui, en somme, fraternisent et pactisent avec eux. D'où vient ce mot assassin ? D'une façon générale, on admet que le mot assassin vient du mot hashish, et l'on prétend que les hashishines, puisqu'il faudrait dire hashishines, étaient des gens qui fumaient le chanvre indien, car le hashish n'est rien d'autre que le chanvre indien, ou ce que les Américains appellent la marijuana, et qu'étant ainsi rendus fous furieux par cette drogue, ils enfourchaient leurs fougueux coursiers arabes, et faisant des moulinets terribles de leur cimetière, ils tranchaient les têtes tout autour d'eux. Eh bien, je ne sais pas si certains d'entre vous ont la pratique du chanvre indien ou de la marijuana, mais je crois que tout de même, il doit exister dans cette honorable assemblée des gens qui sont allés en Orient et qui ont vu les fumeurs de haschich. Lorsqu'un fumeur de haschich a fumé sa cigarette ou sa pipe, il est littéralement abruti, il est étendu au soleil et il ne peut lever ni pied ni jambe. Alors il faut trouver autre chose. Et cette autre chose, il faut le trouver dans le mot lui-même. Le mot assassine est le pluriel de assess et n'a absolument rien à voir avec l'esprit en sachant en interpréter les termes. Voilà donc les chevaliers de l'ordre du Temple qui se rapprochent de cette tribu d'Ismaéliens. Le mystère que nous verrons au cours de cet exposé historique et légendaire, je vous signale que, comme les pythagoriciens, ils portaient le vêtement de lin blanc, qu'ils étaient enterrés tout nus dans un drap de lin et à même le sol, afin que la décomposition de leur matière charnelle s'effectuât dans les meilleures conditions avec la terre maternelle dont ils étaient issus, que ces gens-là pratiquaient une philosophie très proche du néoplatonicisme, et qu'ils étaient, en tout cas, les très authentiques dépositaires d'une tradition architectonique extrêmement poussée, extrêmement parfaite. Les chevaliers du Temple prennent donc contact avec eux et reçoivent de la main même du Cheikh Al-Jubal, c'est-à-dire du maître de la montagne, l'initiation assassine. C'est ainsi que ces honorables chevaliers du Temple vont se répandre à travers l'Orient médiéval, qu'ils vont accumuler les bienfaits, qu'ils vont multiplier les contacts avec les autochtones, qu'ils vont multiplier les voyages avec la métropole, qu'ils rapporteront en métropole des souvenirs, des usages, des modes de vie, comme tous les gens qui maintenant, rentrant en France de territoires qui furent français, rapportent l'habitude de manger le couscous ou de manger le riz à l'indienne. Et comme eux, à l'époque, on les considérait d'un œil un peu torve et on disait, eux, ils ne sont pas tout à fait comme nous. Toujours est-il que grâce à leur activité, grâce à la foi ardente qui les animait, grâce à la bonne volonté qui les faisait agir, les chevaliers du Temple devinrent les représentants diplomatiques du roi de Jérusalem. Et ce, non seulement de Baudouin Ier, mais de Baudouin II, son successeur. Ils reçurent du pape des privilèges spéciaux. Ils étaient souverains au temporel comme au spirituel, non seulement sur les censives du temple d'Orient, mais encore sur les censives du temple dans les domaines qui leur avaient été donnés ou qu'ils avaient acquis en métropole, en Europe. À la fin des croisades, ces gens-là se replient, rentrent essentiellement en France et dans les Flandres et fondent des commanderies templières extrêmement importantes. Louis VI le Gros leur avait d'ailleurs fait don d'un territoire représentant plus du quart de la ville de Paris. Toutes les rues dans lesquelles vous promenez maintenant et qui portent le nom de temple, rue Vieille du Temple, rue du Temple, boulevard du Temple, le carreau du Temple, tout ceci n'était rien d'autre que le domaine des bons seigneurs du Temple qui exerçaient leur souveraineté au temporel comme au spirituel et qui ne relevaient que du pape. Or, les chevaliers du Temple, qui s'étaient voués à la construction plutôt qu'à la destruction, qui s'étaient voués à la fraternité plutôt qu'à la guerre, avaient créé, groupé, éduqué autour d'eux des collèges de constructeurs laïcs, qu'ils avaient instruits dans l'art de la construction et qu'ils chargeaient de construire les routes, les ponts, les cracks, les villes fortes, les chapelles, les cathédrales qu'ils construisaient en Europe et en Orient. Ils allèrent plus loin. Et c'est chez eux, sur le territoire de leur commanderie, que naquit, dans ce Moyen-Âge, confie dans ses structures traditionnelles, et pour la première fois, l'idée de liberté. Je m'explique. Au Moyen-Âge, ce qui nous semble à nous tout à fait naturel, le droit de choisir un métier et de l'exercer, n'existait pas. Il n'existait pas de droit, il n'existait que des privilèges. Les professions étaient fortement organisées, fortement structurées, sous la dépendance du roi ou du seigneur. Elles devaient payer le cens et elles n'étaient autorisées à admettre des membres parmi elles qu'à la condition de leur faire prêter le serment de fidélité au roi ou au seigneur sur le territoire duquel le métier s'exerçait, et surtout de procéder à la levée de cet impôt qui conditionnait le privilège de l'exercice de la profession. Par conséquent, toutes les professions étaient organisées en confréries, en corporations, et toutes les professions payaient le cens. Or, les chevaliers du Temple, qui avaient pour les bâtisseurs, qui étaient leurs élèves et leurs protégés, la plus grande amitié et le plus grand respect, décidèrent, lorsqu'ils fondèrent leurs importantes commanderies d'Europe, qu'il suffisait à un maçon de travailler conformément aux us et coutumes de l'art pour avoir le droit d'exercer son métier en liberté ou, comme on disait à l'époque, en franchise. Et c'est ainsi qu'au XIIe siècle, la notion de liberté, la notion de liberté fondamentale dans la vie de tous les jours, dans le droit de choisir et d'exercer une profession, naquit en France grâce aux chevaliers du Temple. Vous imaginez bien que très bientôt, en quelques années, il n'y eut plus dans toute cette Europe templière de maçons que francs. Car les gens qui avaient la possibilité d'exercer leur métier en franchise, à condition de planter leur tente sur le territoire d'une commanderie templière, n'étaient ni assez fous ni assez sots pour aller s'installer ailleurs. Cette hypothèse, qui est une hypothèse de bon sens, a été d'ailleurs confirmée par un historien qui a écrit, à une date relativement récente, il y a 3 ou 4 ans seulement, un magnifique ouvrage sur la tradition religieuse et opérative de la franc-maçonnerie. Et cet historien s'est attaché à vérifier sur le terrain l'hypothèse que je vous livre. Il est allé rechercher non seulement en France, mais dans les pays voisins, en Italie, et spécialement, je le répète, dans les Flandres, où les commanderies templières étaient particulièrement importantes, Il est allé rechercher pendant la période d'existence de l'ordre du Temple 1118-1312, il est allé rechercher les tombes de maîtres maçons. Et il s'est aperçu que non seulement il n'existait pas une seule tombe hors du territoire des anciennes commanderies, mais que toutes les tombes de maîtres maçons qu'il a découvertes, frappées des signes traditionnels de l'ordre, se trouvaient toutes sur le territoire des commanderies templières. Ainsi se trouvait donc vérifiée cette hypothèse que la franc-maçonnerie était née et avait vécu sur le territoire des commanderies templières pendant la vie et la prospérité de l'ordre. Vous dire dans quel... Cherchant à prendre contact avec l'infidèle, il se trouve tout naturellement en présence de schismatiques de l'Orient, une tribu extraordinaire qui se réclame de l'islam et qui pourtant se trouve peu ou prou excommuniée par l'islam, qui est composée d'authentiques arabes, mais qui néanmoins présente des traits ethniques qui jurent également avec l'ensemble de la race. Il s'agit de la tribu des assassins qui appartient à la grande secte des Ismaéliens. Que savez-vous des Ismaéliens? Vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est une religion qui est une religion islamique, qui se réclame du prophète, qui groupe un nombre colossal d'adhérents, je n'ose pas dire des centaines de millions, mais je crois que le chiffre ne serait pas hasardeux, qui à l'heure actuelle élit son chef religieux tous les ans, et non, qui au contraire le consacre car il est héréditaire, mais qui le gratifie tous les ans de son propre poids d'or et de pierreries. Quelle est l'origine historique de cette secte? Je vais vous le dire en deux mots, et je vais me référer pour cela à un excellent ouvrage, celui de M. Jules Renard, aux éditions Dervy, sur l'Orient et l'Occident. Et il dit en quelques mots que les Ismaéliens pratiquent la religion, une doctrine gnostique. Et voici ce qu'il dit. Ils considéraient Dieu comme inconnaissable, ineffable, incapable de créer. Hors de l'atteinte de l'esprit humain, il avait produit deux principes éternels, la raison universelle et l'âme universelle qui avait engendré l'espace, le temps et la matière. L'âme universelle descendait dans le monde de la matière, s'y subdivisait en armes individuelles auxquelles la raison universelle communiquait l'intelligence. Ces fragments d'âme et de raison divine se dégageaient de la matière après plusieurs existences. Pour les aider dans leur salut, la raison et l'âme universelle s'incarnaient de temps en temps en un homme, c'est la doctrine messianique, ce qui permettait aux âmes particulières de connaître la raison universelle et finalement se réunir à elle. J'ajouterai, pour être à peu près complet, que cette doctrine ésotérique s'appuie sur la lecture du Coran non point comme texte littéral de la foi, mais comme un ouvrage ésotérique qu'il convient de lire avec les yeux de l'esprit en sachant en interpréter les termes. Voilà donc les chevaliers de l'ordre du Temple qui se rapprochent de cette tribu d'Ismaéliens, les assassins, et qui, en somme, fraternisent et pactisent avec eux. D'où vient ce mot assassin? D'une façon générale, on admet que le mot assassin vient du mot hashish, et l'on prétend que les hashishines, puisqu'il faudrait dire hashishines, étaient des gens qui fumaient le chanvre indien, car le hashish n'est rien d'autre que le chanvre indien, ou ce que les Américains appellent la marijuana, et qu'étant ainsi rendus fous furieux par cette drogue, ils enfourchaient leurs fougueux coursiers arabes, et faisant des moulinets terribles de leur cimetière, ils tranchaient les têtes tout autour d'eux. Eh bien, je ne sais pas si certains d'entre vous ont la pratique du chanvre indien ou de la marijuana, mais je crois que tout de même, il doit exister dans cette honorable assemblée des gens qui sont allés en Orient et qui ont vu les fumeurs de haschich. Lorsqu'un fumeur de haschich a fumé sa cigarette ou sa pipe, il est littéralement abruti, il est étendu au soleil, et il ne peut lever ni pied ni jambe. Alors il faut trouver autre chose Et cette autre chose, il faut le trouver dans le mot lui-même. Le mot assassine est le pluriel de assess et n'a absolument